récupération d'Hermeline sur Radio U 101.1 FM le dimanche à 21h. C'est dimanche, il est 21h à Brest. Et vous êtes à l'écoute de Radio U sur 101.1 FM. Chers auditeurs, bonsoir. On se découvre pour la première de mon émission intimiste et interactive, les élucubrations d'Hermeline. Un dimanche sur deux sur Radio U. Une chronique de vie, puis une discussion à bâton rompu. Ça se passe entre vous et moi. N'hésitez pas à appeler le standard de Radio U au 02 98 03 82 61. Ce soir, pour notre première élucubration, on parle de rencontres et d'incarnation. Et comme premiers invités en studio, je reçois mes parents, Perrine et Stéphane, personnages clés de l'élucubration de ce soir. Ça passe ou ça casse? Et je l'espère, de nombreux auditeurs au téléphone. Si vous aussi vous souhaitez assister à l'émission en direct, en studio, il vous suffit de vous inscrire auprès de Radio U. Pour cette première élucubration radiophonique, je convoque la poupée Bella. C'est l'été, les vacances, les années 80, Diabolomante, La Boum, Bowie.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
8, 7.
Commencing countdown, engines on.
3, 2,
check ignition.
Imaginez, fermez les yeux. Une petite maison rose en bord de plage, comme celle d'Atatürk en Grèce. Sauf que c'est chez Mamé, en Bretagne. Ajonc d'or, Hortensia. Les volets s'ouvrent comme la saison. J'ai en tête cette chanson de Francis Cabrel, « On doit être hors saison ». Mais non, pas du tout hors saison. En vrai, c'est l'été qui se profile. Odeur d'herbe coupée, sable fin, océan à perte de vue, les haubans grincent, les cormorans grognent. Gras, gras, gras. Et moi, je suis en résidence surveillée, mode bunker balnéaire activé. C'est un peu comme la Turquie aux Turcs d'Atatürk. D'ailleurs, Atatürk, ça signifie le père des Turcs. Eh bien moi, je me sens dans la maison rose de Mamé comme dans la maison de Stéphane. Et même dans la ville de Stéphane. Car c'est ça que Stéphane, Stépanian signifie. La ville de Stéphane, au Stépanian, le nom de mon père. Un seul mètre à bord, une déco imposée et gare à toi si tu changes le tapis de place. Bienvenue dans la ville de Stéphane. Modèle de république bananière en terrazzo, une sorte de monarchie émotionnelle, avec moi en reine des rideaux et ministre des souvenirs. Dans la ville de Stéphane, couvre-feu à 21h. Il fait encore jour comme un jour d'été, qui refuse de céder sa place à la nuit. Un jour franc, breton, plus long qu'ailleurs. Ici, à l'extrême pointe occidentale, il y a plus d'une heure de jet lag avec le reste de la France. Ce genre de jour qui te regarde droit dans les yeux et te dit « Toi, tu n'iras pas danser ce soir. » Je dois être la seule personne au monde à ne pas avoir le droit de sortir avant mes 21 ans. L'âge de la majorité arméno-bretonne, au XXe siècle, au Tressir. Ces deux-là, mes darons, on peut dire qu'ils se sont bien trouvés pour pactiser. Mais je vais vous raconter chez qui j'ai choisi de m'incarner. Back in the 60s, les chaussettes noires. Papa, Varois, débarque à l'Arsenal de Brest avec son béret et son pompon rouge. Il joue au foot au Stade Brestois en CFA. Et il en fait des caisses, un vrai tisef avec l'accent des cigales. pas un match sans une une du Télégramme avec sa photo en 4x3, qu'il marque un but ou qu'il simule une entorse avec panache jusque sur la civière. Maman, elle, gère le rayon des poupées Bella aux Dames de France. Elle vit chez ses parents, Brest même, Gast. Cours d'ajo, genre la croisette, version granit. Un dimanche après-midi, ils se croisent au bal au Stendhal. Génération yéyé, boomers déchaînés. Une lueur entre eux, coup de foudre. Ils se donnent rendez-vous dimanche prochain, même lieu, même heure. Sauf que les copines de ma mère l'alertent. T'emballe pas, un fils d'immigré, un coureur de Saint-Trope. Les potes de mon père, même délire. Laisse tomber une fille de Bourges. Résultat, ils se retrouvent dans le même autre bal, même heure, chacun traîné par sa bande, le dimanche suivant. C'est comme ça que tout a commencé, que je suis devenue Bellig, petite Bella, version galette saucisse. Ça n'a pas été si simple à vrai dire. Une étincelle plus une synchronicité égale ils flirtent et décident de se fiancer. Papa se retourne chez lui en Méditerranée pour l'annoncer à ses parents. Il ne revient pas. Il ne donne plus aucune nouvelle. 9 mois d'un silence anéchoïque que même un tir de 7,65 ne saurait perturber. Ma mère pleure, maigrit, passe son temps à la fenêtre, un chagrin ultra-bovarien. Et un matin, derrière les rideaux, du premier étage familial, elle reconnaît papa, là, sur le trottoir, l'air embarrassé. C'est que, arménien, il était promis à une arménienne. Il a fallu qu'il rompe le pacte. En cadeau de réconciliation, il offre à maman une poupée. Une poupée moche de vide-grenier, genre Annabelle. Ce sens du glamour, c'est tout mon père. C'est vraiment comme ça que tout a commencé, qu'on m'a surnommée Bellig. Les années passent, et pour la petite poupée Bella, c'est déjà l'été de ses 15 ans, de ses 16 ans, 17 ans, dans la maison rose au Tressir.
Un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man.
Je m'ennuie, je déambule, je teste la planche à voile sans vent, je joue à Pac-Man dans une galerie qui deviendra poissonnerie puis agence immobilière, parce que même les lieux ont une vie plus festive que moi. Je regarde les gens faire la queue au Taouné, la discothèque de bord de mer, je les vois entrer en bande et ressortir en couple, chaque soir, tous, sauf moi. Mais j'ai pas dit mon dernier mot, puisque tu peux pas draguer la nuit et c'est en plein jour, me chuchote une voix intérieure. À midi, je quitte la plage et je le vois, lui, Robert Smith. Dans son imper noir, ses plateformes shoes, ses cheveux hirsutes et son maquillage de camion volé par 25 degrés. Le réchauffement climatique, je l'ai pas vu venir. Je pensais que c'était son style, juste son style. En fait, c'était un préambule, une alerte météo avec 30 ans d'avance, sous une apparence gothique. L'incarnation de l'ère du Verseau, censée tout rééquilibrer, apparemment, je vous préviens, ce sera plus long que prévu, 2000 ans environ, pour réparer ce qu'on a cramé en 50 ans. C'est ça, la slow justice cosmique. D'ailleurs, si vous voulez en parler sur Radio U ce soir, n'hésitez pas. Composez le 02 98 03 82 61. Mais revenons à Robert Smith. Je le suis. Il se retourne, me sourit. Je réponds. Avec cet air de midinette minaudant. On traverse des chemins bordés de pavots et de murs. On se croirait dans un clip de George Michael, scénarisé par Tristan Corbière. Il s'arrête, m'attend. Je le rejoins. Frôlement. Et moi, on s'embrasse. J'essaie d'imiter Vic dans la boum. Tu sais, j'ai jamais... Il me pose l'index sur les lèvres, chut, comme dans un film de Lelouch au ralenti. La caméra tourne, tourne, tourne autour de nous. Ou mieux, comme Vic Berreton avec Mathieu dans leur cabine de plage à Deauville, au moment où la vieille bouée sur laquelle ils se sont installés se dégonfle, parce qu'en bougeant, Mathieu a déplacé le râteau qui perce la bouée. Dreams are my reality, the only kind of Robert Smith, en vrai, s'appelle Jean-Luc. Je ne le reverrai jamais. Il est là de passage avec ses parents pour un tour de Bretagne en van. Après lui, tous mes flirts auront un prénom composé commençant par Jean. S'il y a une signification à tout ça, je ne l'ai jamais comprise. Mais si vous avez la solution, n'hésitez pas à appeler le standard de Radio U au 02 98 03 82 61. Cette première fois me ragaillardit. J'adopte une nouvelle stratégie. Je n'ai pas le droit de sortir le soir, très bien. J'importe la fête et le flirt dans ma chambre, rez-de-chaussée, volet en bois, jardin en gravier. Ma mère dort en face. Ronflement puissant de sécurité, genre dent 100 décibels, l'équivalent d'un 36 tonnes sur dos d'âne. Mes parents, à l'étage, au-dessus de ma chambre. Risqué, mais ça se tente. Papa se lève tôt pour aller pêcher, abandonnant dans le lit conjugal les algues de la veille et les minuscules crabes englués dans les poils de ses mollets. La fatigue joue en ma faveur. Jean-Luc et moi, on invente un code, ululement de chouette. Ulule, ulule, ulule. J'ouvre les volets, on chuchote, on se met du gel dans les cheveux, on se prend pour Robert Smith sous l'exomile. Ça dure plusieurs soirs jusqu'à ce que le pot de gel nous glisse des mains et s'explose par terre. Le gel gicle partout. On ne parvient plus à étouffer nos éclats de rire. Oups ! Maman se réveille. On entend ses pieds nus descendre en courant dans l'escalier qui craque. Opération commando. Jean-Luc saute par la fenêtre que je referme à la hâte, ainsi que les volets en bois. Sa veste en jean oubliée, je la fourre sous le matelas. Juste le temps de me planquer sous les draps, maman entre, lumière dans les yeux. « Maman, tu me réveilles là ?»« T'as fait le mur !»« N'importe quoi, je suis en chemise de nuit, quoi !» Je tire sur ma chemise de nuit pour le lui prouver. Elle ne remarque même pas que je l'ai mise à l'envers sur mon jean et mon t-shirt, trop préoccupée par l'idée de me compromettre. Elle cherche, à quatre pattes. Je la vois glisser sur le gel, ça me fait rigoler, mais j'étouffe mes rires. Elle se relève, l'air fière de celle qui va réussir à en découdre, plonge sous les sommiers, dans les placards, sous les armoires, en vain. Je veux voir Miousov, version plougonvelinoise. Au matin, elle marmonne devant son café. Mon père ignore la scène. Il lit le télégramme en tapotant sur la nappe cirée. Il aimerait prendre connaissance des décès et de la météo des marées au calme. Mamé enfonce la tête dans son bol tout en me jetant un regard complice, comme Poupette dans la boum. Maman s'agace. Elle annonce un plan machiavélique qu'elle met en place le soir même. Elle dépose un escabeau contre les volets de ma chambre. Si je sors, bam ! L'escabeau chutera sur le gravier. Scène de crime assurée. Jean-Luc pense à le remettre à sa place, cet escabeau, après chaque visite. Jusqu'à la nuit de l'oubli. Au petit jour, ma mère croit m'avoir prise en flag. « Chérie, mamé, venez voir ! Elle a fait le mur, j'avais raison !»«
Mais Perrine !»
Mon père, quand il prend le lead, c'est toujours avec l'accent du sud, en mode Eric Cantona.
L'escabeau est contre le mur, tu vois bien. Elle n'a pas pu sortir.
Bellig, comment t'as fait?
Moi? Mais j'ai rien fait du tout, maman, c'est toi.
T'as dû oublier de le poser hier soir, cet escabeau. Consensus familial, le sujet est clos. Taounet, la discothèque a fermé avant que je sois autorisée à y aller, mais croyez-moi, mes nuits volées valaient tous les slots du monde. Ces nuits d'été bien naïves dans la Maison Rose demeurent un souvenir plus chouette que tous vos flirts rassemblés sous la boule à facettes. Et vous les jeunes, et vous les parents, comment ça se passe aujourd'hui, l'été, les flirts, les discothèques de bord de mer? Les relations parents, ados et jeunes adultes. Les familles avec une double culture, une double origine. Et vous, chers auditeurs, vous ne croyez pas que les parents sont davantage programmés pour être grands-parents plutôt que parents? Ah oui, vous trouvez, vous aussi. Eh bien, parlons-en au 02 98 03 82 61. sans filtre, au débeauté. En attendant vos appels, je vais accueillir mes parents, Perrine et Stéphane, dans le studio. Et pendant qu'ils s'installent, on va s'évader en musique avec Anne Sylvestre, Les gens qui doutent, sur Radio U 101.1 FM.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Vous êtes de retour sur Radio U, vous écoutez les élucubrations d'Hermeline et je suis avec mes parents Stéphane, bonsoir, et Perrine, bonsoir.
Bonsoir, Mlle,
bonsoir.
Qui vont réagir à l'élucubration du jour. Alors, Stéphane, Perrine, ne croyez-vous pas que les parents sont davantage programmés pour être grands-parents plutôt que parents?
Je suis tout à fait d'accord.
Oui.
C'est dur d'élever des enfants, mais c'est tellement mignon d'avoir des petits-enfants.
C'est plus mignon d'avoir des petits-enfants que des enfants?
C'est-à-dire que les petits-enfants sont plus faciles à modeler que nos enfants. Ils sont toujours après leurs parents, quoi. Ils sont toujours têtus, énervants, et voilà.
Les parents, les enfants, tu veux dire?
Oui, les enfants.
Oui, mais est-ce que les parents peuvent se remettre aussi en question, parce que vous-même, vous réagissez en tant que parent, oui, comme selon l'éducation que vous avez reçue en tant qu'enfant.
Oui, tout à fait. Tout à
et
fait.
En plus, dans une époque donnée.
Tout à fait, mais je trouve que c'est plus facile d'avoir des petits-enfants que d'avoir des enfants.
Ah, mais donc tu confirmes. Et toi, papa, alors qu'est-ce que tu en penses de cette idée d'être grand-parent plutôt que parent?
Mais tout d'abord, je dois dire que Perrine a fait un travail remarquable. Elle a très bien élevé ses enfants et ses petits-enfants l'aiment beaucoup également.
Bon, ça, je dois avouer que ce n'est pas faux. Et alors, qu'est-ce que tu en penses de cette idée d'escabeau? Est-ce que vous avez ces souvenirs vous étiez tellement strict que vous aviez des idées un peu saugrenues?
Bien, aujourd'hui, ça nous fait rire parce qu'on a presque oublié cet épisode.
Ah. Alors, moi, je peux vous dire que je n'ai pas oublié.
Pourquoi? Parce que ça t'évoque.
Parce que Je dois dire que cet escabeau, ça a été le drame de ma vie quand même. Hein, parce qu'on m'a soutenue qu'il n'y a jamais eu d'escabeau sur le volet. Et il y en a eu, hein, mais la menteuse, c'était ma grande fille.
Mais quand même, par rapport à toutes ces contraintes que vous m'imposiez alors que j'avais 15, 16, 17, 18, 19 ans, est-ce que je n'avais pas le choix d'imaginer des stratagèmes? Bon, je ne faisais pas le mur vraiment, mais il fallait bien que je trouve des idées.
Ben oui, mais nous, on avait tellement peur qu'il t'arrive quelque chose, que tu fasses des bêtises, et qu'on a été peut-être, avec du recul, un peu trop sévère. Voilà. Mais il faut croire que ça a marché, parce que regarde comment on s'entend bien.
Eh bien, c'est vrai. C'est vrai, chers auditeurs, je dois avouer que vous ayez une... Enfin, c'est mon point de vue, on pourra en discuter lors de prochaines émissions sur Radio U, mais que vous ayez eu une enfance contrainte ou très libre, si vous vous êtes senti abandonné, emprisonné ou je ne sais quoi, le plus important, je crois, c'est de ne pas couper le lien. Et s'il se coupe, de mettre tout en œuvre, tout au long de votre vie, même si ça doit vous prendre 55 ans ou 57 ans, pour le reconstituer et veiller à ce que... il soit encore mieux que dans vos dans votre imaginaire. J'espère que cette émission vous aura donné envie de nous suivre sur Radio U 101.1 FM. Est-ce que papa ou maman, vous avez quelque chose à rajouter pour terminer? Ah, papa voulait parler de ce... Il est grand fan de Brigitte Bardot, je crois qu'il voulait avoir un petit...
Non, en fait, je voulais rappeler que j'ai fait mes études au lycée, au collège de Saint-Tropez. Et quand j'avais 14 ou 15 ans, c'était l'époque où il y avait des séquences de films qui se tournaient à Saint-Tropez, notamment au port des pêcheurs, la Punche. Et avec des copains, ben, on allait voir ce que c'était que cette Brigitte Bardot dans ce film.
Donc papa n'a jamais oublié Brigitte Bardot, apparemment. Et eh bien, papa... on pourrait penser que c'est le mot de la conclusion, puisque finalement, papa non plus n'a jamais rompu les liens qui le rattachaient à son enfance, même si lui a coupé les ponts avec ses parents pour rompre le pacte qu'on attendait de lui et finalement épouser maman. Eh bien, on me fait signe en régie que des auditeurs appellent. Alors, je crois qu'on va prendre la première... c'est une auditrice, la première auditrice en ligne. Bonsoir.
Bonsoir. Oui, je suis une auditrice.
Bonsoir. Alors, vous avez écouté l'élucubration de ce soir?
Oui.
Bon.
Que j'ai trouvé à la fois drôle et triste en même temps.
Triste? Et pourquoi triste?
Ben, parce qu'un oiseau en cage, c'est toujours triste.
Ah, vous avez perçu Hermeline comme un oiseau en cage.
Eh oui.
Mais avec...
c'est
ah
ça.
Bon?
Eh oui.
Ah ouais.
Ah, moi, si on m'avait fait ça au même âge, ben, ça serait mal passé.
Eh bien alors justement...
J'aurais cogné contre les barreaux, si vous voulez. Vous avez fait ça plus finement.
Ah.
Vous passez entre les barreaux. Moi, j'aurais cogné sauvagement.
C'est-à-dire, vous auriez fait le mur, vous auriez frappé vos parents, vous leur auriez donné un somnifère?
Bon, j'aurais pas demandé leur avis, j'aurais pas tenu compte de leur avis. Je serais sortie, quitte au scandale.
Ah, d'accord.
Voilà.
Mais... je peux vous demander quel âge vous avez?
À la dispute violente, et vous passez à travers, quoi. Et moi, je suis frontale, donc ça m'a amusée en même temps, parce que c'est malin, en fait.
C'est marrant ce que vous dites. C'est marrant ce que vous dites, parce que mon père m'appelle la rebelle, et
ouais.
Alors que moi, j'ai vraiment l'impression d'être finalement assez docile.
Ben, c'est un mélange des deux, j'ai envie de dire. Apparemment, vous avez mené votre rébellion tout en vous préservant le maximum possible, quoi. Ce qui est plus malin. Je suis plus frontale. Donc, moi, quand c'était non, c'était frontal. Donc, ça faisait, je pense, des étincelles supplémentaires.
Et je peux vous demander votre âge pour que, si c'est pas indiscret, pour qu'on essaie de...
61, je sais pas si c'est la même génération.
Ben écoutez, oui, à deux ans près, on est de la même génération. Et donc vous aviez le droit de sortir, vous alliez en discothèque, c'était...
Moi, ma situation était un peu spéciale parce que jusqu'à l'âge de 16 ans, je vivais au Maroc. Donc on peut pas avoir les mêmes accès... qu'en France, surtout à l'époque, hein, puisque j'ai 60 ans, on remonte aux années entre 70 et 80. mais je pense que j'avais plus de liberté, oui. Oui, je pense que j'en avais davantage. Il y avait surtout, on allait chez les copines, on dormait chez elles, ou les copines venaient à la maison, elles dormaient à la maison. Les garçons n'intéressaient pas encore beaucoup à 16 ans, enfin jusqu'à 16 ans. Puis après, je suis allée en France faire mes études à 16 ans, et à partir de là, ben, j'ai été totalement lassée en liberté. Donc, j'ai fait ce que j'ai voulu. Et évidemment, un garçon est tombé amoureux de moi, évidemment, il m'a draguée, évidemment, je suis tombée amoureuse. Puis on a fait ce que font tous les jeunes gens à 16 ans. Et là, oui, effectivement, je l'ai dit frontalement et ça a été grave. Ah, enfin, donc... ils l'ont mal pris. Voilà, mes parents l'ont très, très mal pris.
Mais donc, vous les avez mis au pied du mur. Finalement, vous, votre technique, c'était je fonce, bam, et on avise après, quoi. On fonce droit dans le mur.
Ouais, c'est ça. En fait, pas de technique. C'est-à-dire, je fais ce que je veux et c'est pas mon problème, en fait. Voilà, ma technique, c'était moi, j'assume ce que je fais pour moi. Ce que pensent les autres de moi, c'est pas du tout mon problème.
Mais vous aviez déjà cette conscience à 16 ans de vous dire moi j'y vais, peu importe ce qu'ils pensent.
Oui, même avant, même enfant, même toujours.
Ah, mais peut-être que le fait de grandir au Maroc, est-ce que ça change quelque chose à votre avis? Enfin, de grandir ailleurs qu'en France,
oui,
dans les années 70.
Oui, je pense que ça change. Effectivement, ça doit changer. J'y pensais pas, mais oui, bien sûr, oui. Bah, la vie, on voit des gens qui souffrent vraiment, on voit vraiment la misère, on voit vraiment ce que les femmes subissent, on voit comme elles sont contraintes dans leur vie, etc. Et peut-être que chez moi, hein, je ne pense pas que chez mes camarades c'était pareil du tout, mais chez moi ça a allumé l'étincelle de la fameuse étincelle de rébellion que vous aviez, mais que vous avez menée différemment, apparemment.
Bah, écoutez, moi je l'ai menée jusqu'à maintenant, parce que je suis toujours entre cette docilité et cette rébellion en moi. Et j'essaye de louvoyer depuis toujours et encore aujourd'hui.
Oui, mais c'est ça qui était intéressant dans le parcours, dans ce que vous dites. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que face à des problématiques qui sont les mêmes, au fond, c'est-à-dire des parents qui n'acceptent pas de voir leurs enfants grandir, hein, et qui mettent un tabou sur la sexualité. Hein. Pour moi, c'est rien d'autre que ça, en fait. C'est le tabou de la sexualité,
oui, clairement.
Adolescente et de la jeunesse. Clairement, pour moi, ce n'est pas autre chose que ça. Il y a différentes manières de traiter le problème quand on est pris là-dedans. Et c'est ça qui m'a intéressée, c'est que justement, vous ne l'avez pas traité de la même façon que moi. Et j'ai trouvé ça à la fois triste parce que bon, bah, c'est quand même l'oiseau en cage, et à la fois marrant parce que vous avez su vous marrer apparemment. Apparemment, vous avez eu quand même des bonnes parties de fou rire et il y a un certain truc moqueur quoi, chez vous.
Ben... Alors ça, c'est inconscient, mais c'est sûr que cette éducation vraiment très stricte, moi, m'a permis de développer des ressources. Et on m'a souvent dit que j'étais une fille de ressources. Donc c'est vrai que je retomberai toujours un peu sur mes pattes. Et j'ai développé des stratégies de contournement, quoi, en quelque sorte.
Oui, oui, c'est ça qui est intéressant dans votre chronique.
Mais à la fois, c'est un peu du mensonge aussi, quoi. Enfin, je suis toujours un peu tiraillée entre le mensonge et la vérité. Alors que vous, alors, vous êtes plus dans la vérité, dans quelque chose de plus vrai, quoi.
Sauf qu'il y a des choses que je ne dis pas, mais par omission.
Alors, ce n'est pas vraiment mentir.
Ça vous rejoint un peu. Il y a les choses que je ne dis pas. J'ai appris à faire omission sur certains trucs. Qu'avant, j'aurais dit naïvement, et bing, bang, boung, c'est le scandale, c'est la dispute, etc. J'ai appris à me taire. Mais apparemment... Vous avez appris à vous taire plutôt que moi.
Oui, en fait, c'est ça, c'est vrai. J'ai appris à vivre dans le silence et à n'en faire qu'à ma tête avec mes moyens, en contournant tous les interdits.
Mais c'est ça qui est intéressant, parce que de la, après, moi, j'ai eu des parents un peu plus laxistes, hein, un peu plus rigolos quand même, jusqu'à le temps que j'ai vécu à Casa jusqu'à mes 16 ans. Mais après, ça vraiment, les foudres se sont déchaînées sur ma tête. J'ai tenu bon. Ben, et un an après, je vivais avec le garçon, tout en faisant mes études, à 17 ans, je vivais avec le garçon en question. Mais parce que j'étais intraitable, c'était ça ou rien, quoi. Je ne donne pas le choix, quoi. Si vous voulez, je n'ai pas donné le choix.
Bon,
c'était pas négociable, en fait. Voilà, c'était pas négociable. Bon, l'amour n'était pas négociable pour moi.
C'est vrai. Alors, vous avez raison. C'est vrai que moi, peut-être le seul handicap que ça m'a... La seule chose que ça m'a appris de handicapant, c'est que c'est eux qui avaient le pouvoir de négociation, c'est pas moi. Et ouais. Là, alors que vous, vous avez renversé la situation et vous avez pris le pouvoir.
Oui.
Ben, je vous remercie, Laure. Je vais être obligée d'interrompre notre conversation qu'on aurait pu poursuivre de longues heures. Mais il y a beaucoup d'auditeurs qui s'impatientent. Et j'espère peut-être vous revoir dans de prochaines élucubrations.
Mais avec plaisir. C'est toujours intéressant d'apprendre de quelqu'un d'autre une autre vision de... Voilà, une autre manière de faire, de vivre la vie.
De partager, bah c'est gentil. Merci d'avoir appelé et bonne soirée.
Merci,
bonne fin de
téléphone.
Merci. Au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.
Bonsoir, on a une nouvelle auditrice en ligne dans l'émission de ce soir, les élucubrations d'Hermeline. Bonsoir madame ou mademoiselle.
Bonsoir, je m'appelle Christelle, je crois que nous nous connaissons bien.
Ah ah, Christelle.
Oui.
Tu tressires. Ah
oui.
Bah oui, d'accord. Bah Christelle, j'en connais qu'une autre Essire, donc ça doit être vous.
On n'habite pas loin, enfin nous n'habitions pas loin l'une de l'autre à cette époque-là, juste pendant les étés. Donc moi je venais les étés, je venais de la région parisienne et j'ai passé tous mes étés au Trésir depuis mon premier anniversaire jusqu'à aujourd'hui. Donc je compte 57 étés à mon actif au Trésir à ce jour. Donc je suis une inconditionnelle de la Bretagne et particulièrement de la Pointe Finistère.
Ah ben voilà. Alors la chronique a dû réveiller plein de souvenirs.
Énormément de souvenirs. Nous n'avons pas eu la même adolescence. C'est vrai que j'ai adoré le côté romanesque de tes premiers émois amoureux dans ta chambre dans une maison. Moi, de mon côté...
C'était bien naïf, hein.
Comment ?
C'était bien naïf, hein.
Oui, mais c'était beaucoup plus sympathique que ce que je pouvais vivre, puisque de mon côté... j'étais au troisième étage, donc je peux dire que la porte d'entrée, c'était le lieu obligatoire pour passer. Le patriarche était un petit peu strict, donc nous aussi avions une adolescence un petit peu stricte, peut-être moins stricte que la tienne, parce que le Taonnais, j'ai beaucoup fréquenté, énormément fréquenté, et je l'ai fréquenté déjà avec mes parents. À l'âge de 7-8 ans, on allait déjà au Taonnais puisque l'été, il y avait le tournoi du 15 août, le tournoi de tennis. Et à l'issue de ce tournoi, nous allions au Taonnais. Puis je l'ai fréquenté adolescente, le mardi et le jeudi, parce que c'était gratuit pour les filles. Nous avions l'autorisation.
C'est vrai.
Eh oui. C'était le mardi et le jeudi. Et on avait l'autorisation jusqu'à 1h du matin. Alors c'était 1h00. Mon père était stratège, savait que les slow c'était un petit peu après, donc nous on rentrait avant et on courait très vite pour arriver à 1h du matin au troisième étage. Voilà. Donc
c'est marrant
il y a des choses qu'on n'a pas vécues de la même manière, mais je pense que l'une comme l'autre, c'est un lieu qui nous a construites, parfois déconstruites, mais plus souvent construites quand même.
Ben justement, avec l'auditrice précédente, elle me faisait remarquer que elle, c'était pas négociable et que dès son plus jeune âge, c'est elle qui émettait ses conditions en fin de compte. Et si elle avait envie de sortir, elle sortait. Et moi, je considérais que c'était effectivement mes parents qui avaient ce pouvoir de négociation. Et donc moi, c'est ce que je lui ai expliqué. J'ai mis en place un certain nombre de ressources et de contournements pour pouvoir arriver à mes fins d'une manière ou d'une autre. Et je me souviens très bien que je vous voyais sortir, ta sœur et toi, donc le mardi et le jeudi. Et je crevais d'envie d'être avec vous, d'être en bande. Et je voyais les gens en bande et je me disais, mais moi, je suis tout le temps chez moi. Et finalement, je me rends compte avec deux appels qu'en mettant en place des stratégies de contournement, je vivais quelque chose aussi d'hyper romanesque. Et que toi aussi, finalement, tu étais cerné par ces contraintes, quoi.
Bien sûr.
J'avais pas l'impression, moi, j'avais l'impression que vous étiez libre, complètement libre.
Pas du tout. On avait la possibilité de sortir sous certaines conditions. Et il est vrai que c'était 1h du matin. C'était pas 1h10, hein, c'était 1h. Donc, on courait très vite. Mais voilà, c'était quand même... le lieu dans lequel on avait le plus de liberté, parce qu'en région parisienne, on n'en avait pas du tout. Ah donc, pendant les vacances en Bretagne, c'était quand même beaucoup plus libre. Enfin... Et puis, on avait les journées à la plage. Alors, dans ta chronique, il manque un élément essentiel, je trouve, c'est le climat. Le climat breton, parce que j'ai le souvenir, alors tu vois, j'ai un souvenir très précis, c'était l'été 86, parce que c'était l'été de mon bac. Et après avoir donc beaucoup travaillé pendant l'année, j'espérais des vacances au soleil, sur la plage. Et nous avons passé beaucoup plus de temps entre le Mariana, l'Espadon et Andaoudi à boire des chocolats chauds parce qu'on était frigorifiés à la plage. Ça a été une année catastrophique au niveau du temps. Donc c'est vrai que le temps n'est pas toujours de notre côté.
Mais alors en plus, moi, non seulement j'avais pas le droit de sortir la nuit, mais... Pas non plus le jour, j'avais pas non plus le droit d'aller au cinéma ou d'aller boire ne serait-ce que des cafés ou des mentalos à l'époque, c'était la mentalo, des mentalos oui. En bande. Et moi finalement, ce que je regrette le plus, c'est ce phénomène de bande auquel j'ai eu l'impression de toujours vouloir m'accrocher à des groupes, à des gens, et sans jamais pouvoir y parvenir parce que j'avais jamais le droit d'en être. Et c'est plus, ouais. C'est plus ça peut-être qui m'a... Mais comme tu l'as dit...
Mais ça, je comprends tout à fait. Parce qu'on se sent, l'adolescence, c'est un moment où on est très conformiste, où on a besoin de sa tribu pour se construire. Et je peux comprendre que se sentir exclu du groupe, c'est difficile.
Bah, du coup, moi, le seul moyen que j'ai trouvé, je ne sais pas si c'est à cause de ça ou grâce à ça, parce que finalement, pour moi, c'est un atout, j'ai décidé de ne pas avoir d'enfant et de rester finalement l'enfant de mes parents. Et toi, oui. Je sais que tu as eu trois filles, ta sœur aussi a eu des enfants. Filles. Et comme la chronique oui. de ce soir, je terminais par cette question, est-ce qu'il est plus facile pour des parents d'être grands-parents que parents ? Qu'est-ce que tu as une réponse peut-être à ça ou par rapport à tes parents ?
Alors, moi, je pense que être parent, quoi qu'il arrive, c'est une mission extrêmement difficile. Et le fait d'avoir été maman m'a permis de comprendre qu'on était, quoi qu'il arrive, imparfait. Les parents sont imparfaits. Je ne suis pas grand-mère, donc je ne peux pas parler de ce rôle-là. Je pense qu'il est plus facile parce qu'il y a moins d'enjeux. Oui. En tant que parent, les enjeux sont vraiment importants. Donc, j'ai peut-être plus facilement compris mes parents quand je suis devenue maman à mon tour.
Oui.
Je pense que ça m'a aidé à comprendre leurs craintes, parfois des inquiétudes peut-être excessives, mais... Voilà, ça m'a permis de comprendre davantage de choses, d'être plus tolérante par rapport à leurs imperfections et au moment où j'ai pu effectivement leur en vouloir quand j'étais jeune.
Finalement, ça t'a réconcilié avec tes parents et les contraintes que tu as pu ressentir en étant...
Ouais. Tout à fait. Et puis, je pense aussi, la sagesse de l'âge, ça permet aussi de réaliser que les relations humaines sont compliquées, on ne fait pas forcément toujours bien, on peut être maladroit. Donc oui, moi j'ai mis un joli voile sur les reproches que je pouvais faire à mes parents quand j'étais plus jeune, parce qu'ils ont fait comme ils ont pu, du mieux qu'ils pouvaient. Et c'est l'essentiel. Le tout, c'est de ne pas avoir mal agi volontairement.
Oui.
C'était pas le but. Le but, c'était de nous protéger. De nous protéger, mais on a quand même pu faire des choses. On était effectivement contrainte. On était contrainte.
Malgré tout, on a réussi à s'affirmer. Et cette élucubration, cette émission, nous a permis de nous rapprocher. Et c'est vraiment très, très sympathique. Je suis très heureuse que tu aies appelé. Ça me fait très plaisir.
Moi, je suis contente aussi d'avoir participé à cette chronique parce que c'est bien de considérer son enfance aussi comme une richesse. Tous nos souvenirs, c'est une richesse.
Eh bien, on va terminer sur cette belle conclusion. Une richesse, l'enfance, une richesse. Merci beaucoup, Christelle.
Et merci à toi aussi. Et au plaisir de te retrouver à Brest ou au Trésir ou ailleurs.
Et sur Radio U, déjà tous les 15 jours.
Sûr.
Et en effet, au Trésir ou à Brest. Merci, Christelle. Bonne soirée. Et à bientôt.
À très bientôt. À très bientôt.
Au revoir. Merci pour votre écoute. Et je vous donne rendez-vous dimanche en 15, comme on dit. Je suis déjà tellement impatiente de vous retrouver dans les élucubrations d'Hermeline sur 101.1 FM. Soyez au rendez-vous, c'est votre moment autant que le mien. L'émission est en écoute et en réécoute sur radio-u.org. Merci beaucoup, Hermeline.
Les élucubrations d'Hermeline sur Radio U 101.1 FM le dimanche à 21h.